I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et bienvenue dans le FC Stream Team. À mes côtés, celui qui était à Saint-Denis le 12 juillet 1998, à Naïsna le 20 juin 2010 et à Moscou le 15 juillet 2018. Il nous fait l'honneur d'être ici avec nous le 16 octobre 2020. Maxime, la date fera peut-être moins date dans l'histoire du football français, mais on est très heureux que tu sois avec nous.
Ouais, bah moi aussi, et je pense que là, pour le coup, je suis la seule personne à avoir fait ce quadruplé là.
Oui, c'est sûr. En tout cas, vu qu'on n'est que deux aujourd'hui et que moi, je n'étais pas, par exemple, à Saint-Denis le 12 juillet, il y a de grandes chances que tu sois le seul.
C'est parce que tu étais trop jeune, c'est pour ça. Tu mettais encore des couches à cette époque-là, non?
J'enlevais tout juste. J'étais propre juste avant le 11 juillet, j'étais propre, Maxime. Comment ça va, Maxime?
Attends, 11 juillet, propre. 11 juillet de quelle année?
98. Oui. Comment ça va, Max?
Écoute, ça va, Martin. J'allais dire, une veillée de reprise de grandes compétitions, puisque la Ligue des Champions, ça reprend cette semaine. Alors même si je suis un peu bougon, même si ça m'agace ce premier tour qui ne sert à rien parce qu'il y a des trop gros et des trop petits.
De toute façon, t'es toujours bougon, en Ligue des Champions ou pas, t'es toujours bougon, Maxime.
Voilà, et ben, je suis quand même content parce que c'est pas le retour à la normale, mais c'est quand même le retour à petits pas du foot qu'on connaît. Et on va avoir du coup un automne qui va être complètement dingo parce qu'il va y avoir 6 journées de Ligue des Champions jusqu'à mi-décembre. Donc ça va s'enchaîner comme pas possible. Donc c'est plutôt pas mal, et pour rien dévoiler, enfin on va quand même le dévoiler, c'est ce dont on va parler en grande partie aujourd'hui, Martin.
Exactement. Le sommaire de l'émission, on va démarrer avec ça, comme chaque semaine. On va démarrer l'émission dans une première partie en vous dévoilant nos favoris de la Ligue des Champions. Nos favoris, on mettra 5, 4, 3, 2 étoiles. On verra où se situe le Paris Saint-Germain et où se situe le Stade Rennais. Pas sûr que le Stade Rennais soit dans nos favoris, hein. Il faudra rester avec nous jusqu'au bout pour savoir ça. Et Maxime, en deuxième partie d'émission, quelque chose qu'on aime bien faire quand les grandes compétitions reprennent, c'est nos 5 paris un petit peu insensés.
Ouais, c'est ça, on essaie de donner de notre feeling sur des choses. Par exemple, ça aurait pu être, aujourd'hui on a Thomas Morel à la réalisation, on aurait pu dire qu'il marquera 2 buts à l'Urban Foot la prochaine fois. Ça, c'est un pari insensé.
Ça, c'est beaucoup trop insensé, Maxime. C'est beaucoup trop insensé.
Donc, vous voyez, pour vous donner une idée, c'est un peu ça. Donc, on va y aller sur des paris qu'on va vous délivrer. Il y en aura 5. Derrière, il me faut un petit signe de tête pour me dire oui, à l'instant même précis. On va vous donner donc 5 paris les plus fous les uns que les autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous chercher après sur les réseaux sociaux pour en discuter lequel vous paraît, par exemple, le plus plausible et le plus fou. Vous verrez, il y en a 5 qu'on va vous dévoiler d'ici une petite dizaine de minutes si on n'est pas trop bavard sur le premier sujet.
Ça, pour être bavard, vous pouvez faire confiance à Maxime. Et on terminera avec l'Olympique de Marseille. On reviendra un peu sur cette semaine qui s'annonce décisive pour l'OM, sur ce que l'OM a montré jusqu'ici, sur les choses auxquelles ils peuvent se raccrocher, nos amis marseillais, en particulier André Villas-Boas. On verra que ça peut être la force, mais aussi la limite de l'Olympique de Marseille dans cette période qui s'annonce riche pour l'OM, parce qu'il faudra à la fois remonter en Ligue 1, ça commencera dès samedi face à Bordeaux, mais aussi bien démarrer en Ligue des Champions. Ligue des Champions, justement, Maxime.
Transition Man.
Moi, on m'appelle Transition Man. Alors, on rappelle juste simplement à nos amis que vous pouvez retrouver les meilleurs extraits de cette émission, et il va y en avoir des extraits qui seront très très bons dans cette émission, en vidéo.
D'ailleurs, on n'aura pas assez de bande passante pour tout mettre.
Sur eurosport.fr. Et Maxime, si les gens veulent simplement nous écouter en faisant la cuisine, en courant ou pour s'endormir, qui sait, où est-ce qu'il faut aller, Maxime?
Là, c'est le moment où on vérifie si j'ai appris ma leçon, que je n'ai pas révisé, mais je vais y aller quand même. Alors, vous avez toutes les bonnes plateformes de podcast, ça va de Spotify à Google Podcast, à Apple Podcast, évidemment, Deezer, Acast, Castbox, etc. Vous vous abonnez absolument, parce que, comme je vous le répète chaque semaine, et je ne le dirai pas une fois de plus, ça vous permet de nous retrouver d'une semaine sur l'autre, et vous nous mettez aussi 5 étoiles, comme ça, ça nous fait monter aussi dans les classements, et vous nous retrouvez encore plus facilement. Il y a plus de gens qui nous écoutent, et on fait encore plus d'émissions, donc si vous voulez qu'on arrête, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous désabonnez.
Exactement. On démarre, Maxime, avec la Ligue des Champions, et on a décidé avant le retour de la plus grande compétition européenne, de vous faire un petit tableau de nos favoris de cette compétition. Alors, fatalement, il y aura assez peu de surprises. Hein. On va retrouver les grands clubs européens, mais on a décidé de les classer par étoile. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1 étoile. Qui est le favori de cette Ligue des Champions? Qui a le plus de chances d'aller au bout, selon nous, Maxime? Tu démarres peut-être avec celui qui a 5 étoiles, l'immense, le grand.
Ouais, l'immense, le grand favori.
Super favori, selon nous deux.
Ouais, immense, grand favori. Là, on n'est pas allé chercher très loin. 5 étoiles, le Bayern Munich, évidemment, puisque le Bayern Munich est le tenant du titre. Et le Bayern Munich est une sacrée machine depuis que Flick a pris les commandes du club. Pourquoi le Bayern Munich? Parce que même si on sait qu'il est difficile de faire le doublé en Ligue des Champions, on sait que le Real Madrid était le seul à l'avoir fait dans les 30 dernières années, même un triplé. Le Bayern Munich, c'est un peu un phare dans la nuit. C'est-à-dire que le club ne s'est pas dépeuplé cet été, il s'est même renforcé. On a même Bounassar qui est arrivé au club, même Eric Choupo-Moting. Alors là, c'est pour vous dire. Ah,
c'est pas ce qui fait qu'ils ont 5 étoiles, ouais. Quand même, Maxime, rassure-nous.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça renforce le fait qu'il y a. On en avait déjà parlé l'année dernière, on a l'impression que ce club a aujourd'hui deux équipes, tout simplement. Deux équipes qui peuvent survoler une compétition, et c'est très fort. Donc voilà. C'est un choix, on va dire, assez évident parce que, voilà, quand on prend eu égard à ce qu'il y a à côté et aux incertitudes qu'on voit dans les autres clubs, notamment, on en parlera tout à l'heure, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, il s'impose assez facilement et même si ce n'est pas à l'automne qu'on gagne les Coupes d'Europe, cet automne semble assez radieux pour le Bayern Munich qui devrait au moins déjà survoler le premier tour et être sur une voie royale pour aborder les huitièmes de finale. Donc oui, c'était notre favori assez clair, 5 étoiles le Bayern.
Oui, et puis moi, si je peux rajouter une petite chose, on sent qu'il y a des mecs qui ont encore faim, qui sont pas rassasiés. Alors oui, il y a les Neuer, il y a des Müller qui ont tout gagné, et on sait que parfois c'est un peu dur de se remettre dedans et tout. Mais il y a aussi les Kimmich, les Goretzka, les Alphonso Davies, les Gnabry, le Roi Sané qui vient d'arriver aussi. C'est quand même un argument hyper important. C'est encore renforcé. Donc on sent qu'il y a une équipe quand même et tout un collectif qui aura, quoi qu'il en soit, la bave aux lèvres, pardon, et peut-être aux dents d'ailleurs aussi, cette année. Le Bayern, honnêtement, c'est un ton au-dessus de tout le monde. Maxime, je crois qu'on est d'accord.
Ouais, de toute façon, quand tu en as sur les lèvres, tu en as un peu sur les dents aussi, a priori, donc c'est logique.
Exactement. C'est pour ça qu'on a mis aucun club à 4 étoiles, Maxime.
Oui, voilà.
C'est pour matérialiser l'écart assez énorme qu'il y a entre le Bayern et ses principaux concurrents. Et donc, parmi les autres concurrents, on en a désigné plusieurs, Liverpool, ouais. Manchester City, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Maxime, je vais peut-être démarrer, puis je te laisserai peut-être la main après. Alors, Liverpool, c'est peut-être celui, on a un peu hésité à le mettre en 4 étoiles, mais on l'a laissé en 3 étoiles parce que, voilà, il va falloir peut-être un petit peu se réinventer du côté de Liverpool parce qu'on sait maintenant comment ça marche à Liverpool. Et puis c'est un peu toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on sollicite beaucoup les mêmes joueurs. Vous me direz, il y a quand même une grosse recrue qui fait que Liverpool garde malgré tout ce statut de voilà outsider incontournable de cette Ligue des Champions, l'arrivée de évidemment Thiago Alcantara. C'est certain que ça fait passer le milieu de Liverpool dans une autre dimension. Malgré tout, c'est peut-être une équipe, alors je vais prendre des pincettes hein, mais si je te compare au Bayern Munich, qui parfois manque un peu de solution de rechange. Si jamais il y a un pépin, si on a un des trois par exemple qui se blesse, ça paraît encore un petit peu compliqué, Maxime, pour Liverpool.
Liverpool aussi, il faut le dire, tu l'as dit sur les solutions de rechange, il y a ce qu'on appelle peut-être l'usure du pouvoir. Alors c'est paradoxal parce que ce pouvoir-là, il dure depuis un an en Première Ligue, avec la Ligue des Champions de l'année d'avant. Et pourquoi je dis ça? Parce que Liverpool sort de deux saisons de Première Ligue à quasiment 100 points à chaque fois. On a vu que City avait fait la même chose une saison auparavant et l'année dernière c'est un peu écroulé parce que il faut toujours le rappeler, la Première Ligue c'est pas la Liga, c'est pas la Serie A, c'est pas la Ligue 1. Il y a des combats du week-end qui sont beaucoup plus difficiles et ça rend la tâche encore plus ardue. On l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions. Souvenez-vous que Liverpool n'est pas au final 8. Liverpool qui dominait, archi-dominait la Ligue des Champions, s'est cassé les dents sur l'Atlético Madrid. Donc il y a toujours cette part d'incertitude. Il y a aussi ce début de saison de Liverpool qui est pas trop mal, mais il y a quand même eu ce 7-2. Même un score surréaliste, alors il est tellement gros, tellement absurde pour être réel, et pourtant il l'est, qu'on se dit que c'est peut-être un petit accident. Par contre, n'empêche qu'il y a eu quelque chose qui fait que Liverpool va le voir tout au long de l'année, que c'est très 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 compliqué de maintenir ce niveau de compétitivité. Si Liverpool fait une troisième saison de suite en Première Ligue à près de 100 points, ce sera très très fort. Et moi j'ai un doute que dans ces conditions-là, Liverpool puisse aller au bout en Ligue des Champions.
On va continuer peut-être avec le deuxième club anglais qui est Manchester City. Alors City, c'est encore une fois un des clubs cet été qui s'est le plus renforcé, mais comme les autres se sont vraiment très peu renforcés, c'est encore plus spectaculaire avec Ake, Ruben Dias et Torres. C'est bien, mais bon, pour moi, c'est pas suffisant pour changer de dimension. Si Lionel Messi, par exemple, avait décidé de poser ses bagages du côté de Manchester, City n'aurait sans doute pas eu 3 étoiles dans ce classement-là. J'ai peur que City se heurte toujours aux mêmes limites. La principale limite, et tu l'as dit, Maxime, c'est aussi la Première Ligue, qui fait que voilà, c'est peut-être plus compliqué pour ces clubs-là. Moi, voilà, j'ai peur que City, encore une fois, et Guardiola se heurtent à tout ce qui les a fait trébucher les saisons précédentes. Ils ont perdu David Silva aussi, un joueur que j'adore, mais bon, bref, je pense qu'ils peuvent surmonter cette perte-là avec l'effectif. Ça reste évidemment, encore une fois, un énorme outsider. City, qui, on le rappelle, avait perdu face à Lyon en quart finale de la Ligue des Champions. Voilà, moi, il manque encore ce petit déclic pour moi, ce déclic qui a eu lieu à Paris d'ailleurs, hein, mais ce petit déclic pour faire que City rentre vraiment chez les grands favoris et talonne le Bayern Munich.
Ouais, je suis d'accord. Il y a toujours un point d'interrogation au-dessus des têtes de City. Pourtant, il y a Pep Guardiola. On devrait dire, il y a le mojo Guardiola avec ses victoires en Ligue des Champions avec le Barça. Mais finalement, maintenant, ça fait longtemps que Guardiola n'a pas gagné la Ligue des Champions et il se heurte toujours au même problème. Alors, on voit qu'il essaye tous les ans de rattraper le coup en achetant des défenseurs. Mais en Europe, il manque quelque chose. Et la meilleure preuve, tu l'as dit, c'était cet échec assez spectaculaire contre l'Olympique Lyonnais, parce que normalement, City ne doit pas échouer. City se retrouve en plus dans une configuration de Final 8 qui a profité au PSG, qui profite aussi à ces clubs-là qui peuvent y aller sur un match et ça n'a pas fonctionné. Donc moi, j'avoue que j'ai beaucoup de doutes pour City et c'est vraiment pour moi très représentatif de ce groupe 3 étoiles avec ça peut basculer du bon côté comme du mauvais.
L'an dernier, pour Paris, ça avait basculé du très très bon côté. On parlait des limites et du verrou psychologique de City. Paris l'a fait exploser. Ça, c'est un vrai argument pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand viendront les huitièmes ou les quarts de finale, on ne parlera plus de cette malédiction qui peut parfois paralyser, faire gamberger les têtes ou crisper les jambes. Donc ça, c'est un vrai plus pour le Paris Saint-Germain. C'est aussi un des 11 qui a le plus de talent. Et on va pas revenir sur Neymar Mbappé, mais il y a très peu d'équivalents en Europe. Donc ça restera là aussi l'argument numéro 1. Pourquoi on ne les a pas mis plus haut, du coup, le Paris Saint-Germain? Parce que pour moi, il y a quand même une intersaison où tu perds Thiago Silva, Cavani, sans parler de Meunier, Choupo-Moting, etc., que tu n'as pas forcément remplacé. Danilo Pereira, c'est une super recrue, mais remplacer Cavani par Moiskin, même si ce n'est pas du tout le même poste, mais voilà, la recrue offensive, c'est Keane. La recrue défensive, en défense centrale, il n'y en a pas. Alors oui, Marquinhos, Kimpembe, ça peut tenir le coup, mais il n'y a plus Thiago Silva. Et pour moi, voilà, c'est la limite de... On en a suffisamment parlé ici, Maxime, de Thiago Silva. Hein. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord, mais voilà, moi je trouve que en termes d'effectifs, et puis il y a aussi la guillotine au-dessus de la tête de Thomas Tuchel. Voilà, moi c'est ces choses-là qui me font dire qu'il y a quand même des petites limites du côté du Paris Saint-Germain, même si la principale d'entre elles, à savoir le verrou psychologique, a sauté.
C'est sûr que la saison ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour le Paris Saint-Germain. On l'a vu, alors ils sont passés à un but, à un cheveu d'une victoire en Ligue des Champions. Mais derrière, il y a eu ce mercato qui a quand même été particulier et qui, à mon avis, laissera des traces de toute manière. Parce qu'entre Tuchel et Leonardo, on sait que ça n'ira pas en s'améliorant ou très peu. Et on se doute bien qu'on est plus proche de la fin de la collaboration que du début. Pour ce qui est du mercato, en effet, Leonardo a bien travaillé, il a travaillé sur la dernière journée. Et moi, tant que je n'ai pas vu Danilo Pereira, Rafinha ou Moise Kean sur le terrain et en Ligue des Champions, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, l'avenir le dira, mais comme tu l'as dit, même si je pense que Thiago Silva, je le répète ici, je ne vais pas changer mon avis, n'était pas le capitaine qu'il fallait à ce club-là. En effet, il manque quelque chose, il va manquer quelque chose. Et c'est toujours le paradoxe d'avoir l'impression que le groupe d'un vice-champion d'Europe s'est appauvri à 2 mois d'intervalle. Et c'est vrai que c'est gênant. Et puis, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. C'était une Ligue des Champions particulière. On va revenir au système aller et retour. Faudra voir. Je pense, comme tu le dis, le verrou psychologique, il a volé parce que justement, il y a eu 7 finales. Mais ça s'est aussi passé dans des conditions qui étaient favorables. Il n'y avait pas ces fameux matchs retour où on se dit, bon, ça peut poser problème. Il y a eu aussi Dortmund avant qui était leur petite remontada. Donc il faudra voir. Mais pareil, c'est un club qui va osciller entre. C'est très difficile en fait de dire est-ce qu'une demi-finale, est-ce qu'une finale, est-ce qu'un candidat à la victoire finale. Aujourd'hui, je ne le vois pas comme tel, mais Ça va être très difficile parce que le PSG ne peut pas reculer aussi, parce que tout recul maintenant, qui serait, j'imagine, une défaite en quart de finale, serait vraiment un gros constat d'échec pour ce club qui a progressé l'été dernier.
Et donc pour clore ce groupe, on a mis la Juventus Turin. Bah, y a un argument massu, c'est que déjà un club avec Cristiano Ronaldo ne peut pas être plus bas que ça. Vous me direz où est le club avec Lionel Messi ? On en parlera un petit peu après. Chiesa, Morata, un effectif hyper dense. Voilà. S'il fallait comparer la densité de l'effectif du Bayern Munich avec un autre club, moi, je serais tenté de mettre celui de la Juve parce qu'il y a quand même des solutions, plusieurs solutions à tous les postes. Morata, Chiesa, je vous l'ai dit, qui arrivait. Voilà, moi, je pense que la Juve, même si ça a été très décevant l'année dernière, hein, on rappelle une… Alors, pour le coup, eux, c'était en deux matchs. Hein, la défaite face à Lyon, enfin, en tout cas, la sortie de route face à Lyon en huitième de finale. Ça fait plusieurs années que voilà, la Juve a un peu de mal à émerger en Ligue des Champions. Malgré tout, ça reste la Juve, le club qui domine la Serie A et de très loin.
Ouais, je pense que l'année dernière, c'est aussi lié à Sarri. La greffe n'a pas pris, tout simplement. Les deux n'étaient pas faits pour s'entendre. Donc, ça s'est terminé très tôt en Ligue des Champions. Maintenant, moi, si j'avais dû classer la Juve dans ce groupe-là, je l'aurais presque mis à 3 étoiles et demie. Voilà. Dans ce groupe-là, je l'aurais presque mis un peu au-dessus. Parce que je pense qu'il y a quand même le poids, on va dire, du club et des joueurs qui se connaissent, qui commencent à se connaître. Rappelez-vous que la Juve n'a toujours plus gagné la Ligue des Champions depuis 1996, qui paraît complètement dingue pour un club de ce calibre-là. Donc moi, je me le mettrais à 3,5 et je mettrais en principal outsider du Bayern Munich, la Juve, cette année.
Ah ouais, ah c'est... ouais. Moi, je mettrais quand même Liverpool. Mais bon, on a coupé la poire et on a mis tout le monde à 3. Alors, à 2 étoiles, Maxime, 2 clubs qu'on aurait pu imaginer un tout petit peu plus haut.
Ah oui, la décennie passée laisse penser que ces clubs auraient dû être plus hauts. Maintenant, le temps passe et personne, comme on dit, disent les Américains, « Father time is undefeated », c'est-à-dire qu'on ne perd jamais contre le temps. Messi se fait un peu plus vieux, ce Real avance, mais on n'a pas de certitude avec notamment Eden Hazard. Quel Eden Hazard cette année ? Il était arrivé l'année dernière pour remplacer Cristiano Ronaldo. Évidemment, ça ne s'est pas bien passé. Le Real a quand même été champion d'Espagne, mais en Coupe d'Europe, c'était moins bien. Le Barça, on va revenir sur le 8-2, évidemment, du Bayern, la sortie de route spectaculaire qui a obligé à tout changer de fond en comble. Est-ce que ce Barça-là sera plus fort ? Je pense. Est-ce que ce Barça-là sera de taille déjà à gagner une nouvelle Ligue des Champions ? J'ai des doutes, donc c'est presque une révolution dans notre classement de mettre le Real et le Barça à ce niveau-là, parce que justement, la décennie, c'était la décennie espagnole. Et là, on a du mal à les mettre un peu plus haut parce que moi, encore une fois, c'est plus l'inconnu qui trône au-dessus de leur tête plutôt qu'une défiance. C'est vraiment un point d'interrogation.
Moi, le Real, je vois ça comme une équipe soit avec des joueurs qui sont un peu en fin de cycle et qui ont un peu moins faim, soit avec des joueurs qui sont trop jeunes encore pour espérer gagner la Ligue des Champions, en tout cas porter sur leur épaule cette équipe-là. Donc voilà, je vois une équipe un peu entre deux, le Real, qui trouvera peut-être son sens l'été prochain avec le mercato, qu'on annonce complètement dingue. Mais là, voilà, je vois encore un Real entre deux. Après, il y a 4 raisons pour moi pour lesquelles il ne faut pas enterrer le Real. Ces 4 raisons, c'est Zidane, Benzema, Kroos et Sergio Ramos. Voilà. Du côté du FC Barcelone, il y a Messi et Ter Stegen, et je rajouterai aussi en dessous Fati qui peut complètement exploser cette année et amener le Barça dans des sphères qu'on ne soupçonne pas. Et c'est vrai qu'à leur hache, j'ai du mal à voir ces deux équipes. Voilà, pour faire simple, pour moi, il y a moins de talent au global qu'au PSG, il y a moins de cohérence sur le terrain qu'à Liverpool, il y a moins de densité dans l'effectif qu'à la Juve ou qu'au Bayern. Donc c'est pour ça qu'on les met aussi un peu en dessous. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont beau être le Real et le Barça, comme tu le disais, il y a trop d'interrogations qui escortent ces deux équipes-là. Et voilà, c'est peut-être un peu choquant de les voir là parce qu'une équipe avec Messi, une équipe coachée par Zidane est un candidat naturel avec des champions. Voilà. Il va peut-être pas cette année, tout simplement, Maxime.
Les dernières années nous ont appris quelque chose, notamment les deux dernières victoires en Ligue des Champions, c'est que la Ligue des Champions s'offre maintenant à des équipes, à des collectifs hyper huilés où les têtes ne dépassent pas tant que ça. C'était le cas de Liverpool, c'est le cas du Bayern Munich. Donc, avant de prétendre, je pense, aujourd'hui à une victoire en Ligue des Champions, il faut que le Barça redevienne une vraie équipe et pas seulement l'équipe de Messi, et que le Real, qui pour le coup, là, est une vraie équipe, aille un peu plus haut et aura absolument besoin de Hazard. Sans Hazard, je ne vois vraiment pas le Real en candidat vraiment très crédible à la victoire en Ligue des Champions.
Oui, mais c'est tout simplement en fait deux équipes qui ont pris du retard, ouais. Tout simplement sur les dernières saisons. Il y en a d'autres qui se sont construites, il y a des armadas qui se sont construites, qui ont elles aussi chuté avant de renaître. Je pense au Bayern l'année dernière, mais le Bayern, il a trouvé son rythme de croisière. Alors, il n'est pas exclu que ces deux équipes-là trouvent aussi leur direction cette saison. Pour le moment, on en est quand même loin. On termine avec les une étoile, Maxime. Je ne les ai pas toutes en tête, donc je vais te laisser ça.
Alors, une étoile, on a l'équivalent, on a l'équivalent des Pays-Bas pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire trois l'équivalent des Pays-Bas Coupe du Monde, Ligue des Champions, c'est-à-dire l'Atlético Madrid, trois finales perdues et un trio d'anciens vainqueurs qui sont l'Inter Milan, Chelsea et je vais trouver le dernier, Dortmund. Voilà. Donc là, c'est vraiment les super outsiders.
Ouais, c'est super outsiders. On a remis de l'Atlético parce que Luis Suarez aussi il va apporter quelque chose et parce que voilà, je pense que la perte de Morata et l'arrivée de Luis Suarez, João Félix aussi qui va un petit peu grandir. Maintenant, est-ce que Diego Simeone va maintenir, voilà, est-ce qu'il va trouver les recettes pour repiquer un peu cette équipe et la remettre un peu dans le dernier carré auquel elle était habituée, hein, au milieu des années 2010 quand même. C'était une équipe qui avait de vrais atouts et qui était un candidat naturel. Elle a un peu dégringolé dans la hiérarchie. L'Inter Milan qui s'est super bien construite. Et je trouve que c'est vraiment, s'il y avait peut-être une valeur sur laquelle miser pour le futur, avec un super coach, avec une attaque Lukaku, Lautaro qui est resté. Hein. Ça, c'est important aussi. Hein. Lautaro qui est resté, donc il va prendre un an de plus. L'Inter, ça reste quand même… voilà. Moi, c'est eux, j'aurais peut-être mis un et demi. Et à Dortmund aussi, avec Sancho, avec Haaland, avec des jeunes qui grandissent à Dortmund. Et généralement, on leur laisse pas la chance de grandir à Dortmund. Donc, ça peut faire très, très mal. Voilà, c'était quand même important de parler de ces équipes-là.
Et Chelsea.
Et Chelsea, exactement.
Chelsea avec leur recrutement hyper sexy de l'été. Mais comme pour la Première Ligue, je pense que cette équipe sera performante, mais a besoin d'apprendre. Et vraiment, il y a des équipes qui sont en fin de cycle, on en parlait tout à l'heure. Là, Chelsea, c'est vraiment le tout début du cycle. Donc déjà, les mettre à une étoile, c'est pas mal, mais c'est une équipe qui arriverait en quart de finale. On ne serait pas plus étonné que ça, pour le coup.
Alors, malheureusement, chers amis marseillais, chers amis rennais, bon, c'était un peu juste cette année pour paraître dans nos favoris. On l'espère, dans les années qui viennent.
On ne demande qu'à se tromper.
Hein. On ne demande qu'à se tromper, évidemment. Et puis, il n'est pas exclu qu'il y ait une équipe surprise. Il y aura une équipe surprise. Hein. Il y en a eu il y a deux ans avec l'Ajax. Il y en a eu l'année dernière avec Leipzig et l'Atalanta Bergame, quand même, malgré tout, hein, qui sont allés très loin.
Et bah, cette année, ce sera Ferencváros. Voilà.
Maxime, tu mets combien là-dessus?
Allez, je pousse à 2 euros.
Ouais, voilà, Maxime. Le problème, Maxime, c'est qu'il ne va pas au bout de ses idées. Voilà,
alors, un jour, je vous raconterai les paris de Martin, l'audace des paris de Martin.
Bah ouais, mais moi, je les gagne.
Hein. Ah non, tu ne les gagnes pas, justement.
On peut continuer l'émission ou pas, Maxime? Parce que je vais vous dire la vérité. On
sinon, je sors la note avec la dette. Hein.
On préparait cette émission, Maxime me disait. Mais là, le programme, il n'est peut-être pas un peu juste, là, parce qu'on ne va pas faire plus de 10 minutes. Là, on en est déjà à 25 minutes, Maxime. On n'en est qu'au premier sujet.
On fait un quart d'heure, à tout péter.
Non, on est à 25 minutes, Maxime. Allez, on passe.
Allez.
On passe au deuxième sujet de cette émission. Maxime, je te laisse le présenter, peut-être le deuxième sujet de cette émission.
Oui, alors, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions reprend mardi et on vous a parlé de nos favoris et on a envie de faire des prédictions, ce qu'on appelle des bold predictions, c'est-à-dire des paris osés. On a décidé de 5 affirmations qu'on va vous présenter. On va essayer de vous convaincre et on en reparlera justement à la fin de la saison pour voir si on a eu raison sur chacune d'entre elles. Bah déjà, si on avait raison sur une d'entre elles, ce serait pas mal. Oui. Martin, tu vas commencer par la première et c'est peut-être pratiquement la plus difficile à imaginer, mais on y va.
C'est la plus difficile à imaginer, mais moi j'y crois dur comme fer. C'est Erling Haaland, meilleur buteur de cette phase, enfin de la, non pas de la phase de poule, de la Ligue des Champions.
Oui, parce que c'est plus la même.
Ah non, de la Ligue des Champions en tout et pour tout, parce que je vois Dortmund aller très loin dans cette compétition et je vois Haaland, personne ne met plus de buts que Haaland. On est sur un joueur quand même, je le rappelle, parce que voilà, il joue en Bundesliga, il joue à Dortmund, il joue pas au Bayern, c'est un Norvégien, donc on en parle assez peu d'Haaland finalement par rapport à ce qui pèse déjà dans le foot européen. C'est quand même un joueur qui a marqué plus de buts que joué de matchs en Ligue des Champions. Il en a 10 buts en 9 matchs. Donc ça déjà, c'est pas rien. En Bundesliga, c'est à peu près pareil. Il a à peu près un ratio d'un but par match. Bref, chaque fois qu'il joue, il marque. En France, on en parle moins parce qu'il y a d'autres phénomènes, Kamavinga, Mbappé. Mais pour moi, en termes de talent, même si ce sont pas les mêmes caractéristiques, donc c'est difficile de les comparer, mais en termes de talent et de ce qu'ils peuvent apporter au football européen, je vois pas de grande différence entre Mbappé et Haaland aujourd'hui. Haaland, il a 20 ans, je le rappelle, hein, 20 ans, et c'est déjà pour moi l'un des plus grands attaquants d'Europe, déjà, avec ce qu'il a montré. Alors bien sûr, ça demande à être confirmé dans un espace-temps un peu plus large, Mais moi, cette année, je le vois terminer en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions. Il y a Lewandowski, évidemment, hein, qui va lui poser quelques problèmes. Je pense qu'il y aura peut-être un petit tassement de Messi et de Ronaldo, peut-être avec des équipes qui auront peut-être un petit peu moins loin que d'habitude. Voilà, je pense que Lewandowski, ce sera effectivement un sacré client. Mais je vois bien Dortmund aller loin, aller très loin, parce qu'ils n'ont pas perdu grand monde cet été, alors que d'habitude, ils se font dépouiller. Oui, ils ont perdu Hakimi, mais bon, Reina est toujours là. Sancho est toujours là. Hollande, évidemment, est toujours là. Ils ont recruté définitivement Emre Can. Il y a Bellingham qui est arrivé aussi. Il y a le petit phénomène Coco. Alors, ça sera peut-être un peu tôt cette année, mais qui sait. C'est une équipe qui a grandi alors qu'on ne lui donne jamais l'occasion de grandir, Dortmund. Donc, je dis attention, attention à Dortmund et faites très, très attention à Hollande parce qu'il partira dans un grand club un jour. Mais c'est aussi parce qu'il terminera meilleur buteur de cette Ligue des Champions 2020-2021.
Dortmund est un grand club.
C'est un grand club, Maxime, et tu vois ce que je veux dire.
Tu veux dire un club riche.
Voilà, et puis c'est pas le Real, c'est pas le Barça. On parle beaucoup moins de Dortmund que les autres.
C'est sûr. Moi, quand je vois Haaland sur le terrain, j'ai l'impression de voir Ivan Drago.
Voilà. Exactement.
C'est une espèce de bête absolue qui va très vite, qui est très fort. Et c'est vrai, comme tu le dis, il n'a pas beaucoup de défauts parce que justement, il a une forme de finesse, il va vite et il est costaud. Donc lui, pour le coup, il a l'avenir devant lui. Sera-t-il meilleur buteur cette année de la Ligue des Champions ? On le verra, mais en tout cas, toi, t'y crois, dur comme fer. Le deuxième pari, il est pour toi, Martin, encore. C'est ton émission. Et bien toi, tu vois bien trois équipes françaises en huitième de finale de la Ligue des Champions 2020-2021.
Oui, alors là aussi, c'est une grosse cote. Trois clubs français qui passent la phase de poule. J'ai été aidé hein, par le tirage au sort. Alors le PSG, je ne vais pas en faire des heures dessus. Même si je pense que c'est presque le club français qui a le tirage au sort le plus compliqué, puisque Manchester United, il y a un demi-finaliste de l'an dernier quand même, Leipzig. Mais bon, ça passera, le Paris Saint-Germain. Ça passera en phase de poule, il n'y a pas de problème. Donc je vais plutôt m'arrêter sur les deux autres. Marseille, alors ça se jouera a priori entre Marseille et Porto. L'Olympiakos, c'est un peu en dessous. Porto, ils ont perdu Danilo Pereira et Telles, donc leurs deux meilleurs joueurs cet été, déjà. Tu as perdu tes deux meilleurs joueurs, tu les remplaces. Tu vas chercher des mecs de 25 ans dans des clubs qui sont un peu de seconde zone au Portugal ou ailleurs. Tes meilleurs joueurs aujourd'hui, c'est qui ? C'est Marega et Pepe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le Porto des grandes années. Et il y a un peu de scepticisme qui entoure cette équipe de Porto. Donc, je me dis que Marseille, avec en plus André Villas-Boas, qui pour moi est le meilleur argument de Marseille, on en parlera peut-être un peu plus tard dans cette émission, mais je me dis que Marseille, ça peut passer, et je me dis même que Marseille, ça va passer. Évidemment, ils seront dépendants de Payet, Thauvin, évidemment, mais pour moi, ça passera face à un Porto très diminué, c'est le principal argument. Du côté de Rennes, je trouve que Rennes a atteint un degré de maturité, a fait sauter tous les verrous psychologiques pour le coup, que ce soit gagner la Coupe de France plus qualifié pour la Ligue des Champions. On est dans une équipe libérée. On le voit en ce début de saison. Ça ne suffit pas en Ligue des Champions, il faut des grands joueurs. Et je pense que ce sera la saison et de l'explosion totale de Kamavinga en Europe. Et c'est lui qui va porter sur ses toutes petites épaules ce stade rennais. À côté de lui, il n'y a pas de star, c'est sûr, mais il y a une équipe hyper cohérente, super bien construite. Il y a une ligne. Il y a une direction engagée par un axe, Stéphane, Maurice, Solveig, qui sont sur la même ligne. Donc, tout est très cohérent, tout est très carré. Pardon. Donc, évidemment, il y a Chelsea qui semble un peu au-dessus, Krasnodar qui semble aller peut-être un petit peu en dessous, enfin, en tout cas, voilà. Rennes, Krasnodar, Séville, il n'y a pas des gaps immenses entre ces trois équipes. Moi, je pense que Rennes, ça va passer parce que c'est le sens de la construction et de la direction et de l'impulsion de cette équipe depuis quelques années. Il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Souvenez-vous de sa performance en Ligue Europa aussi, quand ils avaient battu le Betis Séville à ça de sortir Arsenal aussi. Il y a quelque chose qui pousse ce stade rennais et je pense que ça les poussera jusqu'en huitième de finale de la Ligue des Champions.
Et après ça, il dit que je suis bavard. Mais le Rennes-Krasnodar, dès mardi soir, coûtera déjà cher parce que ça change un peu la donne de démarrer avec 3 points, une première compétition Ligue des Champions et sachant que vous avez vos deux adversaires les plus forts derrière.
Maxime, j'ai beaucoup parlé. Ça va être à ton tour. Non,
moi, je vais aller plus vite.
Et je sais que tu aimes parler d'Antoine Griezmann et c'est donc ton troisième pari pour cette Ligue des Champions.
Oui, moi, je pense qu'Antoine Griezmann réussira cette année en Ligue des Champions sa meilleure saison. Statistique. Alors oui, Antoine Griezmann, il a la tête dans le sac depuis un an. Oui, il a encore la tête dans le sac depuis le début de la saison. Mais il faut lever un peu la tête du guidon et se dire, regarder un peu plus loin et se dire que ça va marcher, ça va finir par marcher. Moi, j'en suis persuadé. Mercredi, après la victoire en Croatie, il a eu ses mots au micro de TF1 en disant « Je remercie le coach, qui sait où me mettre ?» Le message était à peine voilé envers qui vous savez, envers Ronald Koeman qui lui avait promis de jouer dans l'axe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se retrouve sur le côté droit avec Messi en pointe et Coutinho en soutien. Alors évidemment, le côté droit, c'est quand même mieux que le côté gauche sur Griezmann. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas mieux marcher, tout simplement. Alors c'est quoi les meilleures saisons statistiques de Griezmann en Ligue des Champions? C'est 7 et 6 buts. Donc on va dire que c'est 7 buts. Ça voudrait dire marquer 8 buts en Ligue des Champions. Moi, j'y crois beaucoup parce que déjà, il y a ce premier tour avec notamment Ferencváros et Dynamo de Kiev. Ce Barcelone-Ferencváros en Ligue des Champions pour l'ouverture qui peut peut-être être un déclic, on ne sait jamais. Imaginez qu'ils mettent un doublé, ça fera déjà une partie du chemin qui sera là. Et puis, moi, j'ai envie de croire que Griezmann, ça va fonctionner. Alors, je deviens peut-être aveugle avec Griezmann. Je ne vois pas comment le Barça peut aussi se permettre, et c'est, a priori, ce n'est quand même pas dans l'intérêt de Koeman non plus, de mettre une de ses recrues les plus importantes des 5 dernières années de côté. Ce qu'ils vont peut-être réussir avec Coutinho au final, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec Griezmann, parce que Griezmann, il est dans l'état d'esprit. Il va pas pourrir la situation. Moi, vraiment, j'ai envie de croire que Griezmann mettra au moins 8 buts en Ligue des Champions cette saison.
C'est bien d'avoir la foi, Maxime. Moi, j'étais comme toi avant. Et puis, j'ai eu de la sagesse, la maturité. Et voilà. J'aimerais, mais j'ai quand même du mal à croire, parce qu'encore, et moi, c'est ce que je dis depuis le début, depuis qu'il a signé au Barça, il y a ce problème de poste de Griezmann. Et qu'en plus qu'aujourd'hui, c'est Coutinho qui soit placé en soutien de l'attaquant. Voilà. Moi,
il y a 3 matchs. Enfin, on ne peut pas tirer des conclusions là-dessus. Tout peut arriver. Et puis, au moins, il est sur le côté droit. C'est déjà ça, voilà.
Très bien.
Mais je sais que ça ne dépend pas que de lui.
Je vais continuer avec le quatrième pari, Maxime.
Ouais.
un pari qui ne fera pas plaisir aux supporters du PSG. Mon quatrième pari, c'est que Cavani marque plus de buts qu'Icardi cette saison en Ligue des Champions. Je vais m'expliquer. Pardon ?
Ça commencera dès mardi ?
Ça peut commencer dès mardi. Je vais m'expliquer. Donc Cavani qui vient de signer, pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers instants du mercato à Manchester United, donc il sera dans le groupe du Paris Saint-Germain. La Ligue des Champions, on est sur des matchs où, de plus en plus, on l'a vu dans le Final Eight, Neymar et Mbappé prennent la rencontre à leur compte. Voilà, ils confisquent le ballon, et c'est eux qui font les différences. Icardi a même été sorti du 11 dans le Final Eight. C'était criant de vérité à Lisbonne. Dès que ça se resserre un peu, Icardi il est un peu moins là, il est un peu moins indispensable. Il a même fini par sauter, comme je disais. Et tant que Tuchel sera aux manettes, il y aura toujours aussi cette menace au-dessus de sa tête. Icardi, ce n'est pas un titulaire indiscutable au sein du 11 du Paris Saint-Germain, et encore moins en Ligue des Champions, surtout avec Tuchel sur le banc. Donc déjà, je pense que la marge de manœuvre d'Icardi, elle est assez réduite, plus que celle de Cavani, puisqu'il arrive pour combler un trou. À Manchester, ça fait quand même quelques temps qu'il n'y a pas d'attaquant de surface, comme il y a pu avoir avec Ibrahimovic, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment qui fait des 16,50 m son royaume, son domaine. À côté, il y a plein d'attaquants de profondeur, d'ailiers qui peuvent lui donner des passes décisives. On pense à Rashford, à Martial, à Greenwood, etc. Du coup, à mon avis, Cavani, il va se gaver. Vraiment, il va se gaver. Il y a une condition, c'est que son corps le laisse en paix. Donc ça, c'est quand même un gros si, parce qu'on a vu la saison dernière que c'était pas forcément le cas. Mais si Cavani est sur ses deux pattes en toute la saison, je pense qu'il marquera plus de buts qu'Icardi en Ligue des Champions.
Et puis au-delà de ça, je rajouterai un truc, c'est sur si tu fais jouer Icardi, tu joues à 4 devant comme d'habitude. Et moi, je suis toujours persuadé que ce n'est pas viable à un niveau de compétition, parce que tu te manques trop de choses dans le secteur défensif.
C'est un argument, Maxime, et tu me mets là face à mes propres limites, parce que j'aurais dû y penser effectivement. Mais c'est là où on voit que tu es effectivement indispensable dans cette émission, ce dont on aurait pu douter depuis le début de cette émission.
Oui, justement, depuis le début de ces 4 dernières années d'ailleurs.
Exactement.
Voire même de ma carrière professionnelle démarrée il y a bien plus longtemps.
C'est vrai Maxime. On termine avec ton dernier pari, notre cinquième pari, et c'est celui après lequel on court le plus, quoi.
Voilà, c'est pas un pari, c'est un vœu pieux, c'est-à-dire on va fixer la finale de la Ligue des Champions dans un stade rempli de spectateurs, voilà, tout simplement. On sait que l'UEFA a ouvert la jauge à 30% des stades, 30% pardon, de capacité au moment du tirage au sort, mais c'est évidemment lié à discrétion des autorités locales, c'est-à-dire qu'en France, bah, Manchester, il n'y aura personne. Mais déjà, l'UEFA a envie que les stades se remplissent, ce qui est normal, on l'a vu avec la Super Coupe d'Europe. Seferin n'est pas fou, il sait qu'il y a l'Euro dans quasiment un an. L'Euro devant des stades vides, c'est pas terrible pour le business, c'est pour le spectacle. Moi, j'en ai marre des fonds sonores, j'en ai marre des stades vides, j'en ai marre du public dégradé, j'en ai marre qu'on n'ait pas de vaccin. Donc moi, je me dis que si on arrive au mois de mai prochain avec des stades remplis, ça voudra dire qu'on s'est débarrassé de quelque chose d'encore plus important qu'un simple match de football ou que des tribunes vides. Donc voilà, moi, c'est pas mon pari, c'est un vœu pieux. Allez, j'imagine la prochaine finale de Ligue des Champions dans un stade rempli à Istanbul.
Et je te rejoins là-dessus, Maxime. On l'espère tous et on espère même qu'il y aura deux clubs français et qu'on y sera tous et que ce sera la grande fête. Voilà, allez hop, on y va.
Deux clubs français, ça va être quelque chose. Hein.
Ouais, ça c'est sûr. Un petit PSG OM en finale de la Ligue des Champions. On ne l'a pas fait, ce pari-là, Maxime. C'était insensé, ce n'était pas irréel non plus, ces paris-là.
Ah ben non, est-ce que c'est possible? Oui, est-ce que ça se fera? C'est une autre chose.
Ouais, non, là, ça me paraît un petit peu compliqué quand même. On va parler de l'OM, justement, Maxime. Oh. Et tu vois
encore,
qu'aujourd'hui, dans les transitions…
Encore une transition, mais de qualité.
Et ce que tu ne sais pas, Maxime, c'est que toi, pendant que tu vas manger ton petit sandwich, que tu vas manger ton petit homard avec M. Thomas Morel à la cantine du coin, et ben moi, Martin, je ne bosse pas. Je mange pas, je bosse. Je travaille les transitions, Maxime.
J'espère voilà, que bon. M. de Rugy, je n'aime pas le homard.
Je ne suis pas sûr, Maxime, que tu n'aimes pas les homards. Je ne suis pas sûr. Je sais que tu es un grand consommateur d'huîtres.
Huîtres, voilà, que je mange à la tonne. Et c'est vrai, pour le coup. Voilà. J'ai le record du monde.
Les gens seront contents de le savoir, Maxime.
On peut faire des défis.
Chaque semaine, il y aura une petite conseil culinaire de Maxime. On pourrait faire ça, ce serait intéressant. Ce serait hyper intéressant.
Huîtres avec le citron, simplement, c'est pas mal.
Voilà, merci, Maxime, pour cette expertise. On passe au troisième sujet. Et on va parler de l'OM. Et de l'Olympique de Marseille, Maxime, l'OM qui jouait gros avant la trêve, hein, on avait écrit un article là-dessus d'ailleurs sur Eurosport.fr, qui risquait très très gros avec Alvaro Gonzalez devant la commission de discipline, avec le tirage au sort hyper risqué de la Ligue des Champions puisque Marseille était dans le dernier chapeau, un match à Lyon qui sentait le soufre, une fin de mercato où pouvaient se faire dépouiller les Marseillais, et au final tout ça s'est plutôt bien passé. Tous les obstacles ont été passés avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas Marseille est pas mal. Résultat, ils ont bien négocié le virage et aujourd'hui, les ambitions sont quasiment intactes. Mais il y a une grosse semaine qui s'annonce, deux grosses semaines, voire trois grosses semaines qui s'annoncent, puisque la Ligue des Champions arrive, que Marseille est déjà dixième en Ligue 1 et a pris pas mal de retard sur certains concurrents. Maxime, comment tu la vois? Comment tu les vois ces jours qui arrivent pour l'Olympique de Marseille, cette saison qui s'est mal engagée? Est-ce que tu sens que Marseille peut se remettre d'aplomb?
Bah déjà, il y a le constat. Marseille aujourd'hui est 10e du championnat de France. C'est pas terrible. Une place derrière Bordeaux, son adversaire samedi soir, c'est dire un peu l'anonymat dans lequel l'OM a été un peu plongé dans ce début de saison. Il y a deux victoires, il y a trois nuls, une défaite et ça fait 9 points. C'est pas terrible. J'ai regardé l'année dernière à la même époque où ils en étaient parce que le début de saison n'était pas complètement dingo aussi. Et ben c'était un peu différent. Ils étaient cinquième avec trois victoires, deux nuls et une défaite justement. Ça faisait 11 points. Aujourd'hui, 11 points, c'est quoi? Ce serait la cinquième place, exactement. Donc les deux points qui manquent, ça les amènerait là. Mais la question qu'il faut se poser derrière ça, c'est est-ce que Marseille aurait pu grappiller ces deux autres points ailleurs que là où ils les ont pris? Bah la réponse, c'est un peu non pour le coup, parce que justement, il y a le constat comptable et il y a ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a eu ce match au Parc des Princes qui est vraiment à part, parce que par son déroulé, par ce qui s'est passé, par son atmosphère et par la rivalité entre les deux clubs. Puis ce qui est terrible, c'est que derrière, l'OM a confirmé ce qu'on savait depuis des mois, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue très très bien à l'extérieur et qui, à la maison, a plus de mal. Il y a eu trois matchs. Ça fait deux points, dont la défaite contre Saint-Etienne, qui pour moi, à mon avis, est le tournant. Parce que là, ils pouvaient enchaîner derrière cette victoire au Parc des Princes. Et peut-être, je crois qu'ils jouaient d'ailleurs pour la tête du championnat à ce moment-là, au moins provisoire. Ils ont raté cette marche-là. Et derrière, il n'y a pas eu grand-chose de formidable. Donc là, pour l'instant, l'OM est vraiment dans un entre-deux bizarre. Mais si vous regardez la saison dernière aussi, l'OM était déjà dans cet entre-deux. Parce que, souvenez-vous, jusqu'à la défaite au Parc des Princes, qui est à peu près à cette période-là, le gros 4-0, bah, il y a des doutes sur cet OM-là. Voilà, c'est bien, c'est coup-ci, coup-ça. Et peut-être que ce qui manque à l'OM, c'est le déclic qu'il y a eu juste après, face à Lyon, justement. Un déclic, on aurait pu dire que c'est au Parc des Princes, parce qu'il y a cette victoire, en effet, que le Marseille attendait depuis 2010 au Parc. Mais ce n'était pas un déclic dans le jeu. Et je pense que l'OM, aujourd'hui, a besoin de ce déclic dans le jeu, de faire un très, très gros match en jouant. Et ça, pour l'instant, tant que l'OM n'a pas ça, je pense que ça va être très difficile. Quand ce sera, je ne sais pas, parce que par exemple contre Bordeaux, il n'y a pas Payet. Est-ce que ça peut être maintenant? Non, mais en fait, il manque ça. Voilà. Je ne sais pas quand ça va venir, mais il en manque ça. Et aussi, ce n'est pas un détail pour moi, et je trouve que ça joue à l'Olympique de Marseille, et ça va aussi leur jouer des tours en Ligue des Champions. Bah, il manque le public du Vélodrome, et on sait que le public du Vélodrome, s'ils avaient joué Saint-Étienne avec le Vélodrome à 60 000 personnes, 4 jours après une victoire au Parc des Princes, c'était peut-être pas exactement la même chose.
Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent vraiment. Une chose dont tu as déjà parlé, c'est le niveau de jeu. Parce que si on reprend les matchs, alors au Parc, oui, ça gagne. C'est pas un grand match de l'OM, hein, ça gagne. Mais l'essentiel est assuré. Saint-Té, catastrophique. Metz, catastrophique. Lille, catastrophique. Ils ont 2 points face à Metz et Lille. C'est miraculeux. Hein. C'est miraculeux dans les derniers moments. Voilà. Qu'est-ce que nous dit Villas-Boas en conférence de presse hier? Il dit... Il y a le mercato, voilà, il y a certains joueurs qui n'étaient pas concernés. Maintenant, tout le monde est concentré, ce mercato est terminé, etc. Bon, je veux bien croire que le mercato a fait gamberger 2-3 joueurs. Ça n'explique pas le niveau de jeu terrible de l'Olympique de Marseille en ce début de saison, parce que c'est franchement, tous les tauliers, hormis Mandanda, sont en dessous. On ne va pas me dire que le mercato, il a fait gamberger Dimitri Payet ou Benedetto. Ça, c'est faux. Donc, moi, j'ai un vrai souci sur le jeu de Marseille. Une grosse interrogation sur Benedetto aussi. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est le spectre de la deuxième année. L'an dernier, c'était une année, voilà, une année de renaissance, de renouveau, un nouveau projet avec Villas-Boas. Les joueurs n'avaient pas tellement changé. Il n'y avait pas une révolution au niveau de l'effectif, mais il y avait une nouvelle direction impulsée par Villas-Boas après les années Garcia. Villas-Boas, quand vous regardez sa carrière, généralement, la deuxième année, ça se passe pas très bien, voire pas bien du tout. Tottenham, première année, ça se passe très bien. Il y a Bale qui explose, etc. Ils sont dans la course à la C1 jusqu'au bout. Deuxième année, les virants en novembre. Bon. Première année au Zénith, ils sont champions, tout se passe bien. Deuxième année, ils sont troisième, il s'en va. Payet, c'est un peu pareil. C'est un joueur qui aligne assez rarement deux saisons exceptionnelles. Et on sait que ce Marseille-là, est lié à l'état de forme de Payet beaucoup plus qu'à n'importe quel autre état de forme. Plus que Thauvin, plus que n'importe qui. Le patron de cette équipe, c'est Payet. Et on sait que Payet, il est vraiment sinusoïdal. Donc moi, c'est des signaux d'alerte qui me font dire que voilà, l'effectif, il n'a pas été régénéré plus que ça. C'est très bien qu'il ne se soit pas fait déplumer, ça c'est une certitude, mais il ne s'est pas régénéré. Donc je pense qu'il peut y avoir une sorte d'usure, que Villas-Boas y joue sur des mécanismes, et je ne suis pas sûr que ça puisse marcher une année supplémentaire. C'est pour ça que moi, ce spectre de la deuxième année, pour moi, c'est un vrai danger du côté de l'Olympique de Marseille. Le début de saison me donne raison, mais on va pas en tirer une conclusion définitive. Mais moi, j'ai des vraies inquiétudes sur cet Olympique de Marseille, sur ce que je vois et sur ce que je ressens aussi.
Villas-Boas te dirait que tu es bien un journaliste et que les conférences de presse sont mises sous le signe de l'inquiétude. Et lui, pour le coup, jeudi, il n'avait pas l'air inquiet. Alors peut-être qu'il joue un rôle, etc. Mais je pense que ça fait quand même du bien dans un club comme l'OM d'avoir un entraîneur qui ne cède pas à la panique, qui prend les choses avec une forme de philosophie. Comme il dit, vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas gagné nos premiers matchs à la maison depuis 2011-2012. Il répond à ça, bah oui, mais on n'avait pas gagné au Parc des Princes depuis 10 ans. Donc voilà, donc il dit, vous prenez le meilleur et le pire. Voilà. Mais ça dit quoi? Ça traduit que l'OM, en effet, est dans un entre-deux. Et qu'il arrive dans une zone qui pourrait être une zone de turbulence parce que c'est la Ligue des Champions. L'OM n'a plus joué la Ligue des Champions depuis 2012-2013. Il se retrouve dans une, non pas 2012-2013 d'ailleurs, 2013-2014 il me semble. Et c'est pas pareil, voilà, c'est les milieux de semaine qui sont différents. On sait très bien qu'il faut revenir sur Terre le samedi ou le dimanche, c'est pas pareil. Et en plus là, ça va s'enchaîner. Si j'avais une pointe d'inquiétude, j'allais dire, pour l'Olympique de Marseille, elle se situerait autour de deux personnes pour des raisons bien différentes. La première, c'est Dario Benedetto, qui n'est pas foutu de mettre un but. Il est passé, je crois, contre Lille à 2 doigts de mettre le but de l'année avec sa bicyclette. Mais derrière ça, il n'y a pas grand-chose. Et l'année dernière, il a été plus que cyclique. Il y a eu un moment où il s'est mis à marquer, après plus rien. Et c'est vrai que ça devient embêtant d'avoir un avant-centre qui ressemble finalement à un poids mort et qui compte sur ses ailiers pour marquer. Et ça, moi, pour le coup, c'est inquiétant parce que c'est le genre de joueurs qui peuvent, par un but de renard, qui doivent vous soulager à un moment. Vous n'êtes pas bon, bah oui, mais ce type-là, en 2 actions, il marque. Et là, il ne le fait pas. Et si j'avais une deuxième inquiétude, alors, elle est indirecte parce que ça se trouve, le joueur est formidable. J'ai l'impression que tout repose maintenant sur l'arrivée de Cuisance. C'est-à-dire qu'il arrive au milieu. L'OM avait un milieu de terrain l'année dernière qui fonctionnait très, très bien, qui avait plein de solutions de rechange. Et là, c'est Cuisance quasiment qui doit tout changer. Je pense qu'on en demande beaucoup à un joueur de cet âge-là. Je pense qu'il ne faut pas en demander autant. Alors, hormis si c'est un talent d'exception, et ce que je souhaite à l'Olympique de Marseille, C'est ça qui est un peu bizarre d'être dans cette situation, à devoir se remettre à dire voilà, il est prêt, il va nous changer, etc. Doucement quand même, voilà.
Il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé. C'est l'an dernier déjà, c'était sur un fil Marseille, hein, souvent. Hein. C'est-à-dire que ça marchait au caractère, ça marchait. Mais Marseille était déjà sur un fil. Hein. L'autre problème que j'ai, c'est qu'aussi, on sait que entre Jacques-Henri Hérault et André Villas-Boas, c'est pas que c'est pas l'amour fou. C'est que c'est une guerre sous-jacente et qu'on sait que Villas-Boas, cette année, a priori, il n'ira pas au-delà. Donc, il y a aussi ce côté-là, moi, qui est ce petit arrière-goût qui, à Marseille, en plus, ça peut très vite s'embraser. Quoi. Ça peut très, très vite s'embraser. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai quelques limites sur cette saison de l'OM. On leur souhaite, évidemment. Et puis, un effectif hyper juste, on n'en a pas parlé pour terminer. Hein. Oui. L'an dernier, c'était déjà sur un fil, il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Cette année, avec la Ligue des Champions, il y a aussi un risque que ça explose aussi au niveau de l'effectif. Voilà.
Il n'y avait pas d'argent, il y avait le gros déficit. Il se retrouve avec un effectif encore plus serré, avec une compétition majeure à jouer en plus. Donc oui, en effet, ça risque d'être compliqué. La chance de l'OM, finalement, c'est le championnat de France, qui est toujours assez serré, on va dire, sur ses hauteurs, hormis évidemment pour la première place, mais ça, on le verra plus tard. Début de réponse, samedi contre Bordeaux.
Merci Maxime. Merci,
Martin.
Bah voilà, merci. J'ai même merci pas besoin de te dire pourquoi. Ouais, merci la vie. Merci Thomas Morel derrière la caméra et les micros. Merci Quentin Guichard pour les visuels. Et je vois que tu lèves le doigt pour ceux qui nous écoutent. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois lever le doigt. Et Maxime est un bon élève. Et quand il lève le doigt, c'est qu'il veut prendre la parole. Oui, Monsieur Dupuis.
Non. Je me demandais si Quentin Guichard ne joue pas au football. Lui.
Non, Quentin Guichard, je le vois pas jouer au football, personnellement, il suffit de le regarder, hein, finalement, et on se comprend très vite que le sport, c'est pas pour lui.
Je le verrais bien dans les buts face au Van der Sar, tu vois, grand.
C'est vrai qu'il est grand.
Tu vois, il prendrait de la place dans les buts, donc il faudrait essayer quand même.
Ouais. Exactement. Quentin Guichard, donc, qui nous fait tous nos visuels, si vous allez sur eurosport.fr. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine, évidemment, comme tous les vendredis, pour un nouvel épisode du FC Stream Team avec Monsieur Maxime. Puis, en attendant, passez un bon week-end.
Je relève le doigt encore une fois parce qu'on a une nouveauté jeudi matin, une nouvelle émission sur Eurosport qui s'appelle Tour d'Europe, présentée par Cyril Morin. On vous présentera évidemment peut-être le week-end à venir, mais on reviendra surtout sur la première journée de la Ligue des Champions. Ce sera l'émission hebdomadaire qui remplace, donc on vous explique pendant qu'il n'y a pas de mercredi mercato. Vous avez Tour d'Europe, voilà, c'est jeudi sur Eurosport.
Voilà, Tour d'Europe, FC Stream Team, vous avez vos rendez-vous foot sur Eurosport, podcast et sur le site. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.